Je vous invite à prendre tout de suite nos quelques versets dans le chapitre 6 de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse qu'on a donc commencé à voir ensemble la semaine passée. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors nous avons vu dimanche passé, sur base de ce passage de l'Épître aux Éphésiens, que la représentation du réel qu'offrait la Bible était fort différente de tout ce qu'on pouvait bien entendre de nos jours, et qu'il était important d'adhérer à cette réalité dépeinte par la Bible, car celle-ci est fondamentale pour notre foi. Tout simplement, si nous ne voulons pas être divisés en permanence par le doute intérieurement. Seulement voilà, soyons objectifs deux minutes, des puissances, des autorités célestes, autant d'anges démoniaques hiérarchisés sous la bannière de Satan, cela ne se fait pas très sérieux aux yeux de ceux qui sont étrangers au monde spirituel et aux réalités dépeintes par la Bible. Par contre, c'est bel et bien la réalité, oserais-je dire, ce devrait être le quotidien de ceux et celles qui ont mis leur confiance dans l'œuvre de Jésus à la croix. John MacArthur, on m'avait dit que je dirais ça un jour, je ne l'aurais pas cru. John MacArthur a donc raison, à mon sens, lorsqu'il présente le premier verset de la Bible comme un test. Et avec lui, d'ailleurs, la grande majorité des versets de l'Écriture. Tant ceux-ci nous interrogent et nous obligent à nous positionner. En effet, les chrétiens ne sont pas à l'abri de remettre en question l'inspiration de la Bible. Ça peut nous arriver à tous, moi y compris, et ça m'est arrivé à force de potasser les textes, à force de m'ouvrir, de lire, etc. Je ne suis pas en train de dire donc qu'il faut commencer à bêtement tout croire tout ce qu'on nous dit, mais à force de potasser le texte, à un moment, ça commence à vaciller parfois. Il y a un moment, il faut se remettre par la foi devant Dieu en lui disant « Je sais que ta parole est la vérité ». Alors, ce n'est pas trop le moment d'approfondir ce sujet, mais l'équation est somme toute relativement simple, même si on l'appréhende rarement de cette manière-là. Si la Bible n'est pas fiable sur un sujet qu'elle traite, elle perd sa crédibilité sur toutes les autres. Sur tous les autres, pardon. Elle est la vérité ou elle ne l'est pas. Elle est la parole de Dieu ou elle ne l'est pas. Ce n'est pas pour rien que depuis des siècles, enfin peut-être pas des siècles, enfin au moins deux siècles au minimum, elle est attaquée de toutes parts. Parce que forcément, si on démonte, on démolit la parole de Dieu en tant que vérité révélée de Dieu, ben tout s'effondre. La foi chrétienne s'effondre, l'œuvre du Christ s'effondre, puis tout ça n'a jamais existé. Ou si ça a existé historiquement, ça n'a aucun impact pour la vie de l'homme aujourd'hui. Vous comprenez mieux sans doute pourquoi, comme première arme, si je puis dire, Paul parle, on l'a vu la semaine passée, de la ceinture de la vérité. Alors on a vu qu'en termes de vérité, il fallait comprendre aussi de l'intégrer, de l'incarner, cette vérité. Mais aussi la réalité fondamentale, c'est que sans certitude profonde que la Bible est la parole de Dieu, le souffle de son être, et je recite Paul, 2 Timothée 3,16, nous ne tiendrons jamais la distance en termes de foi. Nous serons ballottés par le premier vent de doctrine ou de pseudo-changement qui passe, et chemin faisant, nous nous attacherons de plus en plus à la forme plutôt qu'au fond. On va relativiser, encore une fois, en permanence de plus en plus ce que Dieu dit. Si nous doutons de la vérité, de la véracité de la parole, nous ne pourrons pas nous servir de nos autres armes, parce que, par exemple, dans le passage qui nous occupe ici, nous ne croirons plus en ce que dit l'Écriture au sujet des puissances mauvaises. Si ces puissances mauvaises n'existent pas, si on n'y croit pas, cette armure est totalement dispensable, elle n'a plus aucun sens. Je ne sais pas si vous avez entendu des informations hier. Le petit garçon de combien, 10 ans, au Mexique, il vient à son école, il tue son prof et il blesse 6-7 personnes. Et puis il se suicide dans les toilettes. Voilà. Alors, il a des problèmes psychologiques. J'ai envie de dire, on espère, mais vous savez, il y a de plus en plus de choses. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose de démoniaque. Ça n'est pas possible, mes amis. un gosse de 10 ans qui n'a pas de problème, qui est un bon élève, qui du jour au lendemain vient avec un flingue à l'école, tue son prof et ses petits camarades, on est dans une dimension qui, moi, me semble... Il y a énormément de choses en ce monde qui peuvent faire de nous ce que la Bible appelle, c'est un terme terrible, des apostats. Ça vient d'apostasie. Autrement dit, des hommes et des femmes qui abandonnent la foi, même sans le savoir eux-mêmes parfois. La remise en question de la Bible comme parole de Dieu en est une, et toute l'Écriture le dit, en particulier le Nouveau Testament. Par exemple, je le cite en introduction, le premier verset de la Genèse, ça pose un... évolution, non pas l'évolution, moi j'ai étudié l'évolution, voilà, c'est intéressant, ok. Mais à un moment, il y a des chrétiens et des sincères qui ont dit il faut faire rentrer l'évolution dans la Bible. Et ils ont commencé à débiter des conneries. Parce que ce n'est pas le présupposé. La Bible n'est pas d'abord un livre de science. Il y a de la science dans la Bible, mais ce n'est pas un livre de science. Donc si vous voulez faire cohabiter les deux, forcer le texte biblique en faisant rentrer toutes les découvertes scientifiques dedans, vous allez à un moment avoir un problème. Donc, création ou évolution? Est-ce que la création est admissible bibliquement? La réponse est dans le texte. Créer espèce par espèce, dans son espèce, microévolution par macroévolution, etc. C'est un choix. Un choix qui est dicté par la foi ou pas. Donc, un non-croyant ne croit pas. Croit en l'évolution et pas en ce que dit en la création. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais un chrétien qui dit « moi, je suis un évolutionniste », je pense que même sans s'en rendre compte, on s'éloigne progressivement de ce que le texte dit. Et une fois qu'on a fait rentrer le loup dans la bergerie, après, ça ne fait que s'aggraver. Ça n'empêche pas, je vous rassure, ceux qui me connaissent le savent, de penser, il y a des moments où j'aimerais tirer la prise, de réfléchir. Ça ne doit pas nous empêcher de faire de sérieuses études, justement, de très sérieuses exégèses et textes. Mais le fondement est là, tout passe, tout change, mais la parole de Dieu ne passe pas et ne change pas. Faites un peu d'astrophysique, ce que Newton a dit, disait, et tout le monde dit « Amen Newton », Einstein a dit « ce n'est pas juste ». Et on a dit « Amen Einstein ». Et puis maintenant on dit ce que la relativité générale, il y a un souci. Mais c'est pas grave, moi ça m'intéresse beaucoup. Moi je suis un passionné de science, surtout depuis que je suis plus obligé de faire des interros. C'est bizarre, une fois qu'on m'a libéré des interros, la science a commencé à me captiver. Donc, ce n'est pas qu'il faut se fermer aux découvertes, pas du tout. Les découvertes montrent simplement la complexité de l'univers, et quand on voit le Dieu de la Bible, on se dit, tiens, il est un être quand même un peu complexe, et un peu sérieux, un peu profond. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne peut pas changer? Pourquoi est-ce qu'elle a la vérité? Parce que Dieu ne change pas. La parole est l'expression de son être. Et comme, merci Seigneur, il ne change pas, suivant les circonstances, ce qu'il dit non plus. Alors, vous me dites, ouais, ben Yves, c'est OK. Bon, si c'est moi qui dis, bon, à la limite, ce que moi je dis, vous pouvez relativiser, pas trop quand même, pour votre bien. On va prendre deux textes. Il y en a une multitude. C'est un peu le patron qui parle. Il s'appelle Jésus. Si vous êtes chrétien, votre patron, c'est un peu Jésus quand même. Il dit quoi Jésus? Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Ça laisse pas de place pour beaucoup de discussions, ça. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette, donc il lit le fait de ne pas croire en ce qu'il dit avec le fait de le rejeter. Donc vous voyez que c'est important. Celui qui me rejette, qui n'accepte pas mes paroles, a son juge, la parole que j'ai annoncée. Donc en fait, il n'y a pas de distinction entre ce que le Christ dit et sa personne. C'est elle qui le jugera le dernier jour. Ça en est deux, il y en a bien d'autres. Alors, bien sûr, si certains étaient tentés de distinguer les paroles de Jésus des autres, contenu de la Bible, certains chrétiens disent « Oui, mais Jésus, ce qu'il dit, ça c'est vrai, il faut écouter, mais le reste de la Bible, vraiment ?» Oh, c'est intéressant. Rappelez-vous l'introduction de l'évangile de Jean, je vous le lis. « Au commencement était quoi ? La parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Donc, elle est Dieu, mais elle est distincte de Dieu le Père. D'accord? On a une affirmation trinitaire. Et plus loin, dans le même passage, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Jean écrit, « Et la parole était faite chair, donc elle s'est incarnée, elle a habité parmi nous, tabernaclé, dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons, ce qui est cette parole qui s'est incarnée, et nous avons, dit Jean, contempler sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. La parole incarnée, c'est le Christ. D'accord ? Donc on ne peut pas relativiser le reste de l'Écriture non plus. Prendre ce que Jésus dit et puis tout ce que tout le reste de la Bible, on s'en fout. Ça, on peut relativiser, pas du tout. C'est un corpus un et unique. Donc dans son interaction, dans sa relation, oserais-je dire, avec l'ensemble des données bibliques de son temps, Jésus les a tous validées. Il a validé tout ce qui était dans l'Écriture. Rappelez-vous d'ailleurs cette autre parole de Jésus. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, dont la loi de Moïse, etc., et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et il continue. « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre, iota dans le grec, pour ceux qui ont fait un peu de grec, c'est la plus petite lettre en grec, ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Celui donc, c'est toujours Jésus qui parle, c'est pas moi, celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements, contenu dans l'Écriture, et qui enseignera aux hommes à faire de même, forcément, quand on relativise, on ne garde pas ça pour soi, on va le partager avec d'autres, et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Un dernier pour la route. Ancien Testament. Psaume 119, c'est le plus long de la Bible. Il fait 176 versets. Et ça parle de quoi ? De la parole de Dieu. 176 versets. Si vous avez envie de relativiser la parole de Dieu, ben c'est... Voilà. Psaume 160. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et toutes tes justes sentences sont éternelles. Pas temporaires, pas relativisées, éternelles. Je l'ai déjà dit et je le redis, nous aspirons tous à une vie tranquille ici-bas, et ceci explique peut-être parfois pourquoi il nous semble préférable d'adhérer à une lecture plus libérale ou en accord avec une vision plus scientifique du monde. On aimerait bien que voilà, relativiser un peu ce que l'Écriture dit, parce que ça nous dérange forcément. S'il y a un monde de ténèbres mauvais qui en veut, voilà. Si on a un ennemi objectif terrible, on préférerait s'en passer, hein. Alors, bien, 95% des chrétiens sur cette planète n'ont aucun rapport avec le monde des ténèbres, objectif, conscient. Hein. La plupart des chrétiens vivent leur vie comme si, voilà, tout ça, ça n'existait pas. Ils le vivent souvent comme si même Dieu n'existait pas. Je vous renvoie à ce très bon livre de Greg Crochel, hein, Les chrétiens athées. Donc, croire en Dieu et vivre sa vie comme s'il n'existait pas, c'est ça un chrétien athée. Je pense que le christianisme mondial aujourd'hui, il est un peu dans cette dimension-là. Je crois en Dieu, mais je fais ce que je veux, quoi, en fait. Et pourquoi fait-on ce qu'on veut ? Parce qu'on commence par relativiser, ce que Jésus dit. Donc notre vie devrait, somme toute, si on en croit Paul, ressembler plus à une bataille rangée qu'à un long fleuve tranquille. Se pourrait-il qu'en plus d'être venu pour nous sauver, notre Seigneur est aussi venu pour faire de nous des braves ? Des hommes et des femmes courageux. Tout enfant de Dieu véritable devrait comprendre assez vite que la vie chrétienne est un combat, tant ses autorités et ses puissances célestes mauvaises n'auront de cesse de s'opposer violemment à l'œuvre de Dieu en ce monde et dans nos vies. S'il parvient à vous convaincre que tout ça n'a pas d'importance, que ça n'existe pas, dans un premier lieu, ça impactera vos vies, et parce que vos vies seront impactées négativement par cette dimension, par votre relativisme vis-à-vis de la parole, eh bien, vous ne remplirez pas votre rôle dans ce monde non plus. L'Église est là pour remplir un rôle. On ne le remplit pas. Il y a un impact sur le monde aussi. Ces puissances feront donc tout pour que le plan de Dieu pour l'humanité ne se réalise pas. L'obstacle principal à la pleine réalisation de ce projet, ça peut faire peur, mais c'est un grand privilège, étant entre autres, pas seulement, mais entre autres, chaque chrétien passé par la nouvelle naissance dont parle Jésus en Jean chapitre 3. Tout chrétien né de nouveau est appelé à s'opposer à ce monde de ténèbres. Et parce qu'il s'oppose, le monde change. L'évangile avance et on va de plus en plus vers le retour de Jésus. C'est Pierre qui dit ça. Hâtez le retour de votre Seigneur. Comment ? En faisant et en vivant ce qu'il vous demande de faire et ce qu'il vous demande de vivre. Par rapport à ce qu'il dit dans sa parole. Je vous propose maintenant de reprendre notre épître et de nous arrêter sur la deuxième arme mise à disposition. Enfin, c'est une arme très défensive, en fait, jusqu'à présent. La ceinture, on ne peut pas la enlever et la taper sur la tête de votre voisin. Une ceinture, hein. À moins d'être un ninja, les ceintures, ça ne sert pas à grand-chose en termes d'armes. Ici, c'est une arme défensive aussi, puisque c'est une cuirasse, revêtée, enfilée, la cuirasse de la justice. Alors, ici, petite anecdote, bon, j'ai pris ça sur Internet, ça vaut ce que ça vaut. Ce que Paul a objectivement en tête, lorsqu'il parle de cet harnachement du soldat, c'est le légionnaire romain, quoi. À l'époque, il en a vu quelques-uns, quoi. Ils étaient partout. Après la ceinture de la vérité, la cuirasse. Alors, disons-le d'emblée, la cuirasse servait à protéger les organes vitaux. Un coup de glaive dans le foie, les sorties, les guindailles, c'est fini. Dans le cœur, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Tout ce qui se trouve ici, hein, si vous prenez un coup là, c'est dommageable. Dommageable, vraiment. Donc, ça protégeait d'abord et avant tout les organes vitaux. Cette cuirasse que nous devons absolument revêtir sous peine donc de nous voir asséner un coup mortel, parce que ça c'est le contexte, un coup mortel, c'est la justice, dit Paul. Très bien, mais qu'entend-on par justice? Et de la justice de qui parle-t-on aussi? Alors le terme utilisé par Paul dans le grec, et vous serez content de l'apprendre, c'est « dika yosonai ». Amen. Hein. Yakosonai. C'est une langue très comique, le grec ancien, je trouve. C'est pas pour rien qu'ils ont révisé. Hein. Dans les écrits de Paul, ce mot signifie le plus souvent non pas justice, dans le sens commun du terme. Hein, parce qu'on dit justice, on pense à la justice, les tribunaux, machin. Quoique c'est ça aussi. Mais justification. Alors, je me demande bien pourquoi ils se traduisent tous par justice, alors que dans l'usage commun que Paul fait de ce terme dans ses lettres, c'est toujours justification. C'est-à-dire l'initiative gratuite et souveraine prise par Dieu qui, en Christ, déclare le pécheur juste devant lui. Donc, par la grâce de Dieu, le pécheur est justifié. Il est en Christ et Christ est en lui. Donc, c'est ça qu'il a à la tête, à l'esprit, Paul. Et quand on y réfléchit, c'est logique. Existe-t-il une protection spirituelle meilleure que celle-là ? Puisque nous sommes engagés dans un combat spirituel. Il ne s'agit pas d'aller foutre des coups de boule aux gens dans la rue. On se bat contre des entités spirituelles. Réfléchissons un instant. Se savoir justifié par la grâce de Dieu, par le seul moyen de la foi en Jésus, le Christ crucifié, avoir revêtu non pas notre propre justice, qu'on aurait fait de bien devant Dieu, mais la justice de Jésus, avoir revêtu, littéralement, c'est ce que Paul dit aux Galates, le manteau de la justice du Christ, qu'est-ce qu'il y a comme meilleure protection contre les attaques de l'ennemi? Parce qu'en pratique, ça veut dire quoi? Quelle que soit ma vie, quoi que je fasse, par exemple, de mal, je peux me tenir devant Dieu sans craindre aucune condamnation, en étant certain que je serai accueilli par lui. Y a-t-il une meilleure défense contre quoi? Ben, contre les accusations de notre conscience qui nous accuse parfois parce que nous ne sommes pas ce que nous devrions être, et contre les calomnies de celui dont le nom hébreu, Satan, signifie adversaire et le terme grec diabolos, calomniateur. Tu te dis chrétien, tu te rends compte la tamponne que tu t'es prise hier soir? 4 bouteilles de pinard, mort bourré, tu es chrétien. Tu oses encore dire que tu es chrétien? T'es chrétien, tu viens de mentir à ta voisine, mais un chrétien, ça ne ment pas à sa voisine. Ça vous dit quelque chose que je suis en train de dire? Nous le savons tous les jours. Nous disons ou faisons des choses qui ne sont pas en accord avec ce que notre Père attend de nous. Tous les jours. Alors, la bonne nouvelle, c'est que toujours Bible en main, Dieu sait ça, vous savez. Tous les jours, notre conscience, qui logiquement avec le temps doit être exercée de plus en plus au discernement du bien et du mal, ce qui est bien de ce qui est mal, et ça, si vous ne lisez pas l'Écriture, vous ne risquez pas de le savoir, ben, cette conscience alimentée par le Saint-Esprit, qui nous pousse dans ce sens-là, nous reprend, doit nous reprendre. On sait quand c'est mal, on le sait. Et nous en éprouvons de la gêne, du chagrin, parfois. Pourquoi ? Parce que nous aimons celui qui a tout accompli pour nous. Nous aimons notre Seigneur. Mais nous savons aussi que nous pouvons nous approcher librement de lui, revêtus de la justice du Christ, de ce qu'il a accompli. Et que dès lors, notre Père nous accueille. On va prendre un texte en Hébreux 4:16. Ça vous encouragera peut-être à lire cette magistrale épître. C'est ma préférée, hein, avec Colossiens et avec Romains. Et avec Galates, enfin soit. Approchons-nous donc avec assurance, hein, pas n'importe comment, pas en tremblant, mon Dieu, non, non. Approchons-nous donc avec assurance du trône, c'est plus un trône de jugement, c'est un trône de grâce, d'accord ? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et nos besoins les plus fondamentaux au quotidien, c'est « Seigneur, j'ai encore fait l'andouille. J'ai encore dit ça, j'aurais pas dû le dire. » J'ai réagi comme ça, j'aurais pas dû réagir comme... Enfin, voilà. Alors, si nous n'étions pas justifiés en Christ, lavés, purifiés par son sang, notre conscience, je vais être clair, hein, notre conscience ne résisterait pas aux attaques de l'ennemi de nos âmes. On serait détruit. Pourquoi ? Ben, parce qu'on sombrerait dans une culpabilité sans fin. On ne sortirait pas de notre culpabilité. Alors, des chrétiens qui ne sortent pas de culpabilité, ça existe. Hein. Mais il faut vraiment qu'ils se fassent aider. Hein. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la contrition qui pousse, parce que quand on fait l'andouille, l'esprit pousse à retourner vers Dieu. Hein. T'as fait l'andouille, va voir papa. Hein. Allez, go, tout de suite, va voir papa. Allez, t'en as besoin. Va lui dire, il le sait, hein, mais t'as besoin d'en parler. Allez, go. Mais la culpabilité morbide, elle éloigne de Dieu. Je ne suis pas assez bon, il ne va jamais me pardonner ce que je viens de faire ou ce que je viens de dire, et ma vie est foutue, et ça n'ira plus jamais, et patati et patata, et on s'éloigne. Pourquoi ? Parce qu'on entend la voix de l'autre. T'as bien fait de t'éloigner de ces pauvres types, franchement. T'es pas digne de lui. Franchement, tu te rends compte s'il a fait pour toi à la croix ? Et tu continues à faire ça ? Quelle honte ! C'est donc avant toute autre chose quoi, mais notre cœur que cette cuirasse est supposée protéger. C'est l'organe vital par excellence, le cœur. Tout peut déglinguer dans votre vie tant que votre cœur tient. Vous tient. Et un certain dit Seigneur, coupe mon cœur quoi, parce que moi j'aimerais pas partir d'ici, hein, par exemple. Mais cette cuirasse, elle protège spirituellement notre cœur aussi. Le cœur, je rappelle, qui dans l'enseignement biblique est le siège des émotions, de l'intelligence, de tout, hein, des sentiments, de tout. Donc c'est notre tour de contrôle. Si notre cœur va mal, si notre cœur est blessé, on va aller très mal. Hein. Mais ce cœur, et ça c'est important de ne pas l'oublier, est aujourd'hui circoncis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette parole de Dieu qui était inscrite sur des tables de pierre, hein, référence aux 10 commandements, qui était extérieure à l'homme, pour ceux qui ont placé leur foi dans le Christ, cette parole de Dieu, elle est marquée dans le cœur de ceux et celles qui sont venus au Christ par la foi. Elle n'est plus extérieure, elle est intérieure. Saint-Esprit ne doit donc pas faire rentrer des choses en vous, il doit les faire grandir en vous. Puis surtout pour les garçons, c'est bien que ça soit le cœur qui soit circoncis maintenant. Parce que les filles, sur ce coup-là, vous aviez facile quand même. Un texte en Romains 2, je vous le lis. Hein. Mais le juif, alors dans le contexte, hein, Paul n'était pas antisémite, il était juif. Hein, donc, mais le juif, donc, autrement dit, dans la pensée de Paul dans Romains, le véritable descendant d'Abraham, qui est le père de tous les croyants, chrétiens j'entends, hein, les descendants spirituels dans la pensée de Paul, il dit, mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, dit Paul, c'est celle du cœur, accomplie non pas par des mains humaines, comme l'ancienne alliance, hein, zizi, clac, clac, mais par l'esprit de Dieu en vous. Donc cette circoncision-là n'est pas effectuée par la main des hommes, mais par l'action de l'Esprit Saint. C'est de la théologie, ça. Enfin, vous ouvrez la Bible, vous faites de la théologie. Voilà ce que disait Luther par rapport à cette circoncision du cœur. Ce qui se fait par l'Esprit Saint, c'est tout ce que Dieu opère en l'homme d'une manière surnaturelle. Être transformé à l'image du Christ, vous ne pouvez pas le faire par vous-même, hein, mes amis. Ça, c'est ce que les Juifs ont tenté de faire. C'est pas possible d'obéir à ce que Dieu demande. Et il continue, Luther, ce qui se produit selon la lettre, donc ce qui est écrit dans la loi de Dieu, c'est toute œuvre d'homme accomplie par la nature sans l'Esprit de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle les œuvres. Je vais faire un certain nombre de choses qui plaisent à Dieu pour être accepté par Dieu. Ça s'appelle la loi, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas obéir à tout. Paul ailleurs dira, si vous obéissez, dans l'Épître aux Galates, si vous voulez être sauvé par la loi de Moïse, vous devez obéir à tous les commandements, tout le temps, en permanence. C'est impossible. Donc tout changement véritable en l'homme est le fait de l'action surnaturelle de l'Esprit Saint en lui. Donc, reprenons ça par rapport à notre cuirasse. Venez à douter de ça, de votre salut, de votre justification accomplie par le Christ, de la présence de l'Esprit en vous et de l'amour de Dieu dans lequel se trouve la source du salut, et votre cœur se trouvera en danger. Auriez-vous oublié de mettre votre cuirasse? En demeurant, chaque fois que le diable vous rappelle votre passé, rappelez-lui son avenir. Ou, comme moi je fais, et rappelez-vous, ou mieux, mémorisez ces deux versets que je vous laisse. Il y a donc, Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune... Écoutez bien, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quoi qu'ils fassent, il n'y a plus aucune condamnation. Et plus loin, dans le même chapitre, toujours Paul, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie pour nous, il est entre nous et le Père. Alors tout ceci étant dit, et bien dit je trouve, hein, vraiment, il n'en reste pas moins vrai que si nous voulons résister aux attaques diverses et variées à destination de notre petit cœur, nous allons devoir sur la longueur faire preuve de cohérence. La justification qui est la nôtre en Christ doit déboucher dans notre vie à une justice morale. Donc la justification dont nous sommes revêtus et pour laquelle nous ne sommes en rien responsables, c'est Dieu qui a tout fait, il nous a sauvés par grâce, il a initié ce plan, il nous a aimés le premier, il nous a donné la capacité de croire, tout ça on n'y est pour rien. Ça constitue le volet juridique de la justice de Dieu, pénal, le volet pénal. Je vais expliquer ça avec des petits dessins. Concernant l'acte d'accusation, la parole de Dieu même, nous sommes déclarés innocents. Non coupable, car étant au bénéfice de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix et appliquée à nous par la foi en cette œuvre. Voilà, ça c'est le mécanisme. Mais il reste le volet moral. Nous devons manifester dans nos vies quotidiennes la réalité de ce que notre Seigneur a accompli pour nous. Dire je suis chrétien et je fais n'importe quoi, sur le long terme ça ne peut pas durer. Parce qu'il y a une dimension, un volet moral à tout ça. L'acte qui nous accusait, dit Paul, on va prendre le texte tout à l'heure, l'acte qui nous accusait a été cloué à la croix et notre baptême en fait foi et avec lui le témoignage de ceux qui ont assisté. Le baptême, ça manifeste visiblement quelque chose d'invisible qui s'est passé en vous. Le baptême n'a donc aucun sens si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est une conséquence, une métaphore du fait que vous êtes mort avec le Christ et ressuscité en lui. Et si on le fait de manière publique dans l'Église, c'est parce que l'Église doit être témoin de cet engagement, témoin de cette réalité, et vous aidera à le tenir dans le temps, à être des disciples, à devenir des disciples du Christ. C'est à ça que ça sert. Hein. Vous ne pouvez pas vous faire, moi une fois un ami, il y a des années, qui m'a dit « Ma femme ne veut pas que je me fasse baptiser, je ne peux pas me baptiser en ta baignoire. » J'ai dit « Non, je ne te baptiserai pas dans ma baignoire, cachée, non. » Déjà parce que la baignoire, elle n'est pas assez grande. Ça doit être public. Donc nous devons manifester dans nos vies la réalité de ce que notre Seigneur a accompli pour nous. Donc cet acte d'accusation, qui est la parole de Dieu, même c'est elle qui nous accuse. Les exigences de Dieu nous accusent en fait. Accusent le pécheur de ne pas être, d'être un pécheur. dont cette cuirasse de la justice est donc aussi celle de la conduite et du caractère. Alors, on va prendre deux textes dans Épître aux Colossiens. Je vous ai dit que c'était mon équipe préférée, Colossiens. Il, j'ai mis entre parenthèses Dieu, pour que ça soit clair pour tout le monde, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, on y revient, hein, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il y a donc, encore une fois, ici, Paul y fait un lien objectif entre ce que le Christ a accompli pour nous et le fait que les puissances mauvaises qui sont notre ennemi ne peuvent plus nous faire bouger de ce statut juridique pénal. Vous êtes non coupable si vous êtes en Christ. Alors dès que vous êtes attaqué par rapport à ça, parce que dans votre vie vous faites parfois ce qu'il ne faut pas faire, vous ne devez pas être ébranlé par ça. Vous êtes en Christ. Cette articulation de Paul dans toutes ses épîtres, vous êtes en Christ parce que vous êtes justifié. Ce n'est pas par vos mérites à vous, à travers sa croix. Et il est en vous pour que vous puissiez être sanctifié, purifié. Purifié de quoi ? De ce que vous étiez avant et de surtout votre capacité encore présente à travers votre ancienne nature de faire encore de temps en temps les andouilles. Deuxième texte, toujours dans Colossiens, un peu plus loin. Ne mentez pas les uns aux autres. Donc voilà, on sait qu'on est tous nuls, hein, donc ça ne sert à rien de se prouver le contraire. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est l'homme perdu. Il est beau, mon homme perdu, hein ? OK ? Ça, c'est les deux côtés d'un fossé qu'on ne peut pas combler entre l'homme et Dieu. D'accord ? Enfin, c'est le résumé de tout ce que je viens de dire. Hein. J'aurais dû commencer par ça, peut-être, et me limiter à ça, sans doute. Hein. Comment est-ce que Dieu résout cette équation irrésolvable ? Je suis un Dieu saint, parfait, et l'homme est pécheur. Distance. Mais je l'aime, donc il faut que je le rapproche. Comment je fais ? Lui ne peut pas, il est nul. Il est brisé, son âme est détruite, mon image en lui est altérée. Donc c'est l'œuvre de Jésus à la croix qui sert de passerelle entre l'homme perdu, pécheur, et Dieu. D'accord ? Acte d'accusation dont parle Paul, dont parle Paul, mais c'est clair, ça doit être clair dans votre tête, c'est important, c'est de la base, hein, c'est de la soteriologie de base. Hein. Donc, acte d'accusation, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui accuse le pécheur. Elle a été donnée au pécheur pour ça, pour que le pécheur se rende compte qu'il est pécheur par rapport aux exigences de Dieu et qu'il ne peut pas être réconcilié par ce qu'il est capable de produire parce qu'il ne peut pas produire ce que Dieu attend. C'est pour ça que Jésus, en vivant cette vie parfaite, a été agréé par Dieu et que son sacrifice a été accueilli par Dieu. D'accord ? Paul fait référence au vieil homme ici. Ça, c'est très important de comprendre, parce que ça cafouille de plus en plus. Paul dit, votre vieil homme a été crucifié avec le Christ. Le vieil homme, ça n'est pas votre ancienne nature d'aujourd'hui qui continue à vous poser de gros problèmes dans votre marche avec Dieu. C'est ce que vous aviez fait avant votre rencontre avec Dieu, tout ce que vous avez fait de mal. Ça, Paul dit, et à travers Paul, Dieu dit, tout ça, c'est oublié. Il y a un très beau texte dans cet testament qui dit ça, Dieu le prend, il le jette derrière lui, il ne s'en souvient plus. Hein ? Non ? Je ne sais pas, je sais pas ce que vous avez fait comme conneries quand vous étiez jeune et beau, avant de rencontrer votre Seigneur. Moi, je suis bien contente, hein, parce que si ça n'était pas vrai, moi, je serais écrabouillé encore aujourd'hui. Et, enfin, ce n'est pas mon cas, mais imaginez un meurtrier qui se convertit. Si ça, ce n'est pas vrai, mes amis, mais il est mort. Hein. Si par l'œuvre du Christ qui lui est appropriée, ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas vrai, mais c'est pas, il ne va jamais se remettre de ça. Parce qu'au moment de sa conversion, la prise de conscience de ce qu'il a fait devant Dieu, il va pleurer toutes les larmes de son corps, il va demander pardon à plat ventre devant Dieu. Mais pour qu'il puisse se relever, il faut que ça soit vrai. Ou il ne marchera plus jamais debout, hein. Il restera à terre. Hein. Vous comprenez ? Dieu nous terrasse dans la conversion par la révélation de ce qu'il est et de ce que nous sommes. Le premier mouvement de la repentance, on est écrabouillé. Enfin, moi, j'étais écrabouillé. J'ai pleuré 4 heures de suite. Mais après, il faut qu'on soit redressé, qu'on commence à marcher à la suite du Christ. D'accord ? Donc, le vieil homme, ce n'est pas votre ancienne nature dont on parle dans d'autres textes. Hein, d'accord ? Alors, ici, c'est le côté légal et juridique, hein, non coupable. J'ai remis le texte, le mot justification en grec là. Donc, c'est la justice du Christ qui vous a été appliquée. Donc, juridiquement, vous êtes non coupable. Passez devant le tribunal et Dieu dit non coupable. Ça, c'est juridique. C'est inaltérable. Vous ne pouvez pas perdre ça. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a accompli, qui l'a bétonné. Vous ne pouvez pas perdre ça. Le fondement, c'est l'œuvre du Christ. Vous ne pouvez pas le perdre. D'accord ? Maintenant, une fois que vous êtes là, grâce à tout ça, Dieu a tout fait pour vous, donc dimension pénale. On ne participe pas au salut, mais on participe à sa sanctification. Une fois que vous avez traversé, ouais, vous êtes en Christ avec Dieu. Youpi ! Vous avez le Saint-Esprit, pas pour faire décoratif, pour être transformé à l'image du Christ. Et ça, c'est la dimension morale dont je parlais. Mais en vous, il y a toujours votre ancienne nature et le Saint-Esprit. Il va falloir vous battre contre votre ancienne nature et apprendre à vous soumettre à l'Esprit. Ce qui est important, c'est que tout ça, vous n'avez rien fait et vous ne devez rien faire. C'est Dieu qui a tout fait. Là, vous devez faire. C'est un partenariat avec Dieu. Je vais y venir. Ça va, c'est... Je suis épuisé. Non, je pense c'est pas vrai. Hein. Enfin, moi, ça m'éclate la tronche. Hein. Ça, moi, je trouve. Enfin, voilà. Ah, moi, je trouve ça. Voilà. Apparemment pas vous, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Non, ben il y a des fous. Hein. Disons que je fais partie des fous. Donc, mais c'est. J'ai posé ça ou j'ai joué avec. C'est fondamental de comprendre ça. Parce que ça signifie que l'ennemi, que ni l'ennemi, pardon, de nos âmes, ni nous-mêmes, ne peut plus, si nous sommes chrétiens, nous accuser sur base des exigences de Dieu révélées en sa parole. Il n'y a plus d'acte d'accusation. Oui, mais t'as vu ? Non coupable. Je suis non coupable. Mais, il pourrait encore nous accuser si nous ne faisons rien avec l'aide du Saint-Esprit en nous pour obéir à cet acte d'accusation qui n'est plus un acte d'accusation pour le chrétien, mais un chemin de vie. Nous ne sommes pas dispensés d'obéir à la loi de Dieu. Nous devons apprendre avec le Saint-Esprit à désirer obéir à la loi de Dieu. On n'a pas été sauvé par le Christ, en Christ, pour vivre la vie que l'on veut, mais pour vivre ce que Dieu demande de vivre. Et c'est devenu possible, rendu possible, par la présence du Saint-Esprit en nous. Donc, à la question, qu'est-ce qu'il faut retenir encore pour le chrétien du Nouveau Testament ? Tout, sauf les sacrifices, forcément. Mais tout le reste, on doit commencer par les 10 commandements. Hein. Ça, c'est quand même le SMIG. Hein. Plus les lois lévitiques, tout ça, c'est forcément... Le Christ est le sacrifice suprême, etc. Donc tout le bazar avec les animaux, tout ça, relisez l'Épître aux Hébreux, il vous explique ça mieux que moi. Mais pour le reste, suivre Dieu, ça veut dire obéir à sa parole, obéir, entre guillemets, à sa loi. D'accord ? Vous n'êtes pas dispensé d'y obéir parce que vous avez le Christ, vous êtes tenu d'y obéir par amour et par désir de Dieu. Donc nous avons été libérés des exigences de la loi divine, par l'obéissance parfaite de Jésus jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, afin qu'avec lui, avec Jésus, nous en lui et lui en nous, nous soyons rendus capables de désirer obéir aux exigences de la loi divine. Et je passe la parole à Pierre dans sa première lettre. C'est le tout début de sa première lettre, il envoie du lourd, Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, alors c'est des régions géographiques, la plupart de ces régions sont en Turquie actuelle, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent, ouais, c'est pour ça qu'on a l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Moi, je me dis que il y a moyen de faire une étude d'au moins 3 semaines sur ce court passage et que eux, c'était les salutations normales de l'époque. Et l'Église comprenait tout ça. Ça, c'était des lettres qui étaient lues à l'Église hein, quand elle arrivait. C'est comique, hein ? Donc, je résume la pensée de Pierre. Nous sommes en lui, en Jésus, en Christ, pour notre justification, parce qu'autrement, ça ne serait pas valable pour nous. et il est en nous par son esprit pour notre sanctification. Nos ennemis spirituels pourront d'autant moins attaquer notre justification que nous serons en train de travailler à notre sanctification. On s'en voudra de moins en moins de ne pas faire ce que l'on fait par ancienne nature qu'à partir du moment où on se soumet de plus en plus à l'Esprit de Dieu. Je vais résumer pour terminer. Enfin, je vais essayer. Cette justification qui constitue notre cuirasse, dans cette très belle métaphore de Paul, est un terme emprunté au langage des tribunaux, mais vraiment. Hein. Ça ne signifie pas que nous sommes tout à coup exempts de tout péché, on sait très bien que ce n'est pas le cas, mais bien que le Christ à la croix a subi la sanction que nous méritions dans son corps, pas dans son âme, dans son corps à cause du péché. Il a porté ça dans sa chair. Le juge a donc pu nous déclarer non coupables et attester que la sentence, la mort, rappelez-vous, hein, Romains 6, 23, le péché, c'est la mort. La destination du péché, c'est la mort. Et donc attester que cette sentence de mort qui reposait sur le péché a bien été exécutée puisque le Christ est mort. Et nous sommes par conséquent pardonnés. Donc dans cette puissante métaphore, nous occupons la place du condamné, mais le juge nous acquitte parce que le Christ a volontairement accepté d'être traité comme coupable à notre place. C'est ce qu'on appelle en théologie la substitution. Il a pris notre place. Donc tous ceux qui pensent que le péché, ça peut être relativisé, il y a quelqu'un qui est mort à cause de ça. Et lui qui n'avait jamais péché en plus, lui. Essayez de vous remémorer ça. Non coupable est donc votre statut juridique devant Dieu. Personne ne peut bouger ça. Oui! Quelle chance, hein? Ça, c'est méchant. Donc, deuxième pan, on avait la sanctification. Cela ne nous donne pas le droit pour autant de vivre de n'importe quelle manière ou de faire n'importe quoi. C'est ici qu'intervient la dimension morale du salut. La sanctification, un chrétien véritable ne peut pas faire autrement ou autre chose que d'emprunter ce chemin de sanctification. S'il ne le fait pas, et je ne vais pas vous mentir, beaucoup ne le font pas, il y a un sérieux problème qui esquinte les pasteurs et qui les font rentrer dans des pressions nerveuses profondes. C'est la plus grande raison d'abandon du pastorat aujourd'hui. C'est que les chrétiens n'en ont plus en plus rien à foutre. Ils sont là pour que Dieu les bénisse et les protège. En gros, Dieu, il sert à ça. Jackpot. Ping, j'ai besoin. Ping. Qu'on discutait de ça avec quelqu'un dernièrement qui me dit ouais, ben Dieu, Jésus a dit qu'on demande et on reçoit. Je dis, oui, mais oui, tu vas encore m'expliquer que ce n'est pas ça que ça veut dire. Ben, c'est bien pour ça que je suis là. Au nom du Christ, c'est émettre des demandes qui sont en rapport avec le Christ, que le Christ aurait fait, que le Christ aurait demandé. Je veux une plus grosse voiture. Jésus n'a jamais demandé une plus grosse voiture. Il allait à pompe, Jésus. Que mon fils ait un beau travail, de merveilleuses études. Je m'en fous, l'important c'est qu'il soit sauvé. Rends-moi heureux, Seigneur. Mais tu es heureux, je suis dans ta vie. Quelle est cette prière étrange? Je te suffis quand même, non? Enfin, etc. Vous allongez la liste. La sanctification est un processus, ça c'est la bonne nouvelle, est un processus au cours duquel l'Esprit Saint, en partenariat avec nous, il ne fera pas sans nous, restaure progressivement l'image de Dieu en nous. L'icône est un peu fêlée, et il la restaure. Pourquoi? Parce que l'icône finale, parfaite, c'est Jésus. Donc cette tâche nécessite notre collaboration, la collaboration entre Dieu et le chrétien. Donc cette sanctification exige que nous assumions notre part de responsabilité. Il ne fera pas tout seul, il ne viole personne. Si vous dites « j'en ai rien à foutre de ton truc, là, moi c'est ma vie qui compte ben. ». Mais ça reste. Hein. C'est encore plus terrible, je trouve. Parce que, quand même, dans beaucoup de textes du Nouveau Testament en particulier, c'est totalement incohérent de dire à Dieu, va te faire foutre, je vais le dire comme ça un peu, hein, va te faire foutre alors qu'il a... Donc, comment est-ce qu'on dit, moi je crois à ça, vraiment, hein, mais j'en ai rien à foutre du reste. En fait, parce que... Pardon ? On n'est pas sauvé pour avoir notre vie à nous, on est sauvé pour vivre sa vie à lui. Je ne peux pas m'empêcher, hein, maman. Tout ça dans, voilà, on est péché, on se casse la figure, moi le premier. Hein. Je ne suis pas en train de dire que voilà, certains sont merveilleux et d'autres pas. Hein. Mais il faut que nous assumions notre part de responsabilité. Alors pourquoi c'est important? Parce que ce partenariat, dans les faits, dans le quotidien, il va nous permettre de contrecarrer les effets encore bien présents de la chute. Il va nous permettre de contrecarrer les effets de notre ancienne nature qui est encore bel et bien là. C'est aussi simple que ça. Et je termine en disant ça. Je pourrais faire un message au-delà là-dessus aussi, mais soit. Pour que ça soit clair dans votre tête, et regardez bien la croix là. À la croix, parce que bon, ma théologie a un peu bougé là-dessus ces dernières années, là-dessus, mais enfin, à la croix, écoute, ce n'est pas la colère de Dieu contre l'homme qui a été apaisé, mais bien son amour pour nous qui a été pleinement révélé. Dieu n'est pas une idole en colère à qui on doit faire des sacrifices pour qu'il puisse ne plus l'être. La croix, c'est la révélation absolue de l'amour fou de Dieu pour l'homme. Alors, par rapport à ça, quelle autre réponse peut-on avoir que lui consacrer notre existence? On ne sera pas tous pasteurs ou missionnaires, hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais ne croyez pas qu'il est plus que temps de commencer à mettre comme priorité ses priorités. Ce n'est pas une suggestion de début d'année. Que le Seigneur bénisse sa parole.